Le thème du jour est le désir, l'envie, sous sa forme problématique, une grande spécialité en ce qui me concerne. Alors, on va faire un petit sondage de départ. Une envie qui, pour vous, est parfois problématique, ou bien parce qu'elle occupe trop de place, ou bien parce qu'elle vous éloigne d'autres activités pourtant plus importantes, ou qu'elle devient obsédante, ou simplement parce qu'elle conduit à des comportements que vous regrettez ensuite. Ça peut être des toutes petites choses. On peut simplement se demander quels sont les désirs qu'on a parfois suivis en se doutant un peu qu'on regretterait de les avoir suivis après. Et je vais faire une petite liste, vous pouvez fermer les yeux et simplement, on comptera pas trop les coches après, mais mettez une petite coche à chaque fois, intérieurement, à chaque fois que vous vous sentez concerné. Parmi ces envies-là, y en a-t-il, combien y en a-t-il qui sont parfois pour vous problématiques dans le sens que vous allez regretter de les avoir suivis? Envie de nourriture. Envie de sexe ou de pornographie. Envie de travailler. Envie d'argent. Envie de drogue. Envie de cigarette. Envie d'alcool. Envie de sport, envie de médicaments, envie d'achat, quel qu'il soit, y compris en ligne. Envie de jeu, jeu d'argent, jeu vidéo. Envie de ranger et de nettoyer, parce que parfois ça devient obsessionnel aussi. Envie de télévision, envie de réseaux sociaux, y compris, par exemple, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Tinder, tout. Et envie d'autres écrans de toute taille, de toute forme. Ok. Qui en a eu au moins une dans la liste qui est parfois problématique? Levez la main. Deux. J'arrête là, c'est bon. 12. Donc, c'est un problème. Après, c'est un petit ou un grand voleur de bonheur, suivant les situations. Certaines de ces envies sont très problématiques, et c'est là qu'il y a ces groupes qui se terminent par anonymes, qui se mettent en place. Et aujourd'hui, il y a des anonymes pour les addictions de réseaux sociaux, par exemple. Il n'y a plus que les outre-mangeurs anonymes, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Il y a aussi les, je sais plus comment ils appellent ça, mais les personnes qui ont la conviction que leur usage des réseaux sociaux leur nuit. Et dépassent leur capacité de contrôle et ils ont des réunions. Paradoxalement, c'est des réunions en ligne, mais voilà. Donc, ces envies sont parfois problématiques, c'est une évidence. Et dans le MBSR d'origine, ça s'appelait réduction du stress basée sur la pleine conscience et on n'en parlait pas. Et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus important d'intégrer cet état d'esprit-là comme étant un état d'esprit sur lequel la méditation peut nous être utile pour prendre du recul et pour se libérer un peu de la place qu'il peut prendre. Un rappel quand même, parce que c'est une des remarques que j'entends le plus à chaque fois qu'on parle de l'impact positif de la pleine conscience sur certaines émotions à problème, c'est toujours « oui, mais c'est pas toujours problématique et on en a besoin » et oui, C'est toujours quand on perd sa liberté par rapport à ces états d'esprit-là qu'on a besoin d'injecter de la pleine conscience pour que ce soit aussi souvent que possible un désir heureux plutôt qu'un désir malheureux. Quel est le désir heureux ? Le désir heureux, c'est on a envie de quelque chose, on se l'accorde, on en profite pleinement, en pleine conscience, on se sent bien d'en avoir profité. Et on n'a pas de regrets et pas de remords. Ça, c'est le désir heureux. Et le désir malheureux, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on se sent mal après, parfois même pendant, et qu'on regrette de l'avoir suivi. Donc on veut maximiser le nombre de désirs heureux et minimiser le nombre de désirs malheureux. Le but n'est pas de se débarrasser du désir, nous ne sommes pas dans une approche ascétique, monastique, masochiste, anti-plaisir. Voilà, comme ça c'est clarifié. Un petit exercice pour plonger dans le vif du sujet qui nécessite d'abord de trouver un moment où vous avez vécu une envie à problème. Alors, j'ai de la chance, j'en ai eu une récemment qui impliquait du nougat iranien. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais du coup, prenez le temps de réfléchir, puis déjà fermez les yeux et vous demandez quelle serait une situation récente où vous avez senti que vous aviez affaire à une envie problématique, pas une envie épanouissante. Vous avez regretté de l'avoir suivi, vous avez senti cette espèce de tension. Que ce soit nourriture, alcool, écran, achat, tout ça. Vraiment une situation qui peut être récente ou plus ancienne, les personnes qui n'ont pas encore trouvé un exemple de ce genre de situation-là peuvent juste lever la main que je me fasse une idée si je dois vous laisser encore un peu de temps. Ok. Il y a toujours des gens pour lesquels cet état d'esprit est très peu problématique, hein, donc ça implique parfois de remonter un peu le temps ou de prendre quelque chose de mineur, juste un moment où vous avez perdu du temps sur un réseau social. Et à un moment, vous rendiez compte que vous devriez arrêter, mais vous avez continué un peu trop longtemps. Des choses simples. Et en prenant une position méditative, ce ne sera pas long. Alors, quand cette situation a eu lieu, où étiez-vous ? En commençant par vous rappeler le lieu et les circonstances. Et en nommant « c'était une envie de quoi ?» intérieurement, et là, ça vous demandera peut-être un travail d'imagination ou de stimulation en vous rappelant du moment où cette envie était la plus intense, la plus forte. Comment c'était ? Et au moment où vous vous rappelez quand l'envie était la plus intense, comment décririez-vous l'état du corps? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment sont les sensations? Est-ce que ces sensations sont plutôt agréables ou plutôt désagréables d'après vous? Et à nouveau, je sais que ça demande du travail peut-être, mais en redonnant un peu d'énergie à cette envie, en vous rappelant à nouveau du moment où elle était la plus forte, émotionnellement, c'était comment? Et là aussi, est-ce que c'était plaisant, déplaisant? Et une dernière fois, mettant à nouveau de l'intensité dans ce souvenir, quand cette envie était la plus forte pour vous, quand vous étiez vraiment pris dans cette envie, à quoi ressemblait votre esprit, vos pensées? Comment est-ce que vous décririez l'état de l'esprit? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Comment décririez-vous l'état d'un esprit occupé par une envie? À quoi ça ressemble? Ok, on prend trois grandes respirations conscientes. En vous demandant si cette envie vous la sentez maintenant ou pas. Et une question subsidiaire peut-être, est-ce qu'il y avait d'autres émotions qui, selon vous, ont contribué à ce que cette envie apparaisse? Parfois, on peut avoir de l'ennui, de la fatigue, de la frustration, de l'anxiété. Est-ce que une autre émotion était là et qu'elle a contribué à faire naître cette envie dans cette situation-là? Et si oui, laquelle? Parfois, ça peut aussi être la faim plutôt qu'une émotion. Ok, et en ouvrant les yeux, je vais faire un petit sondage. Juste quelques réponses par thème me suffisent, mais là, je sais pas si vous avez remarqué, autant c'est facile de se replonger dans un moment de stress où il y a eu de l'anxiété, de la colère, de la honte, etc. Et on a vraiment l'expérience qui nous revient de façon très vivante, très présente, au point que parfois il faut du temps pour en sortir et que je me sens coupable d'avoir fait cet exercice parce qu'il y a des gens qui sont encore mal, d'avoir repensé à leur anxiété, repensé à leur colère. Autant pour l'envie, c'est souvent pas du tout aussi intense et il faut faire presque un effort pour lui redonner de l'énergie, hein, comme si elle était très fragile par rapport à d'autres émotions. C'est pas toujours le cas, mais c'est beaucoup plus souvent le cas. Physiquement, comment est-ce que vous décririez l'état du corps dans cette situation d'envie de quelque chose? Quelques mots-clés lâchés dans la salle. Je vous écoute.
En tension.
En tension, ouais.
De l'agitation.
Agitation.
L'urgence.
Urgence, ouais. D'autres choses? Il y a les sensations particulières? Pas toujours, hein, pour l'envie. Je sais que autant l'anxiété, on va dire, j'avais la gorge qui était comme ça, j'avais le ventre qui était comme ça, pour une envie à problème, c'est plus un état, en effet, de tension généralisée ou d'activation, comme quelque chose qui fourmille. Il y a de l'énergie qu'on sent dans le corps. Hein. On est d'accord que cet état, pour qui est-ce que 3 respirations plus tard, il était plus du tout là quand on a fait l'exercice, hein. Je pense, généralement, c'est pour une majorité de personnes. Vous n'êtes pas encore dedans maintenant, on est d'accord. Hein. Donc, ce qu'on observe là, c'est que c'est un état qui est physiquement un peu plus subtil que pour une émotion comme la peur, par exemple, et puis qui disparaît très vite. Il est volatile. Hein. Est-ce qu'il est, pour qui cet état était plutôt déplaisant? Levez la main. Pour qui est-ce qu'il était plutôt plaisant? Ouais, ça peut arriver parce qu'il y a plus d'excitation ou plus de tension suivant la direction que ça prend. Mais on voit que pour une majorité de personnes, c'était plutôt déplaisant. Et c'est une observation intéressante parce que une raison de craquer et de suivre une envie à problème, c'est que cet état s'arrête. Et c'est très intéressant parce qu'on se dit « Ah, j'ai eu envie d'un truc qui me faisait plaisir et j'ai craqué pour me faire plaisir. » Et c'est vrai que c'est une partie de ce qui se passe. Mais dans le cas d'une envie problématique, ce qui se passe souvent, c'est « Libérez-moi de cet état de tension. » Et pour m'en libérer, ben, je vais obéir à l'envie parce qu'au moins ça va s'arrêter. Hein? Comme un état d'esprit qui nous harcèle et puis on dit bon, je vais lui céder parce qu'il va arrêter quoi. Il va arrêter de me crisper, de me mettre dans cet état de tension. Donc ça c'est un premier constat, c'est qu'en fait c'est pas forcément agréable et c'est entre autres parce que c'est pas forcément agréable qu'on va suivre l'envie. Émotionnellement, là aussi. Pour qui c'était, ben je pense que j'aurais à peu près la même chose parce que c'est lié, hein, c'était plutôt déplaisant, mais il y avait en même temps, pour qui il y avait aussi la promesse de la récompense, il y a cette ambiguïté entre en même temps on se réjouit, puis en même temps on se sent un peu pas très bien dans l'état dans lequel on est. Qui dirait que ça partait un peu dans les deux directions? Ouais. Un peu émotionnellement ambigu, hein. Mentalement, ça c'est vachement intéressant. Comment vous décririez l'esprit? Cet esprit qui pense, qui prend des décisions, qui pèse le pour et le contre, qui réfléchit, c'était comment? Lâchez-moi quelques phrases.
La guerre,
une guerre intérieure.
Un dilemme.
Un dilemme.
Diabolique.
Diabolique, ouais. Dans quel sens?
Moi, j'ai toujours l'impression que j'ai un diable.
Un petit diable à l'intérieur.
Et ouais, puis je dois céder. C'est presque un plaisir de céder, alors que je sais que je dois prendre.
Oui. Donc une tension, un dilemme, un conflit.
Confus.
Ouais. Quoi d'autre?
Mais dans le dilemme, il y a des fois aussi le fait de se dire j'ai le droit.
Oui.
Et ça c'est compliqué. J'ai le droit finalement.
Oui.
Ça me fera du mal, mais j'ai le droit.
Oui, j'ai le droit. Oui, alors ça c'est tout le, quand on rentre dans le contenu des pensées, il y a beaucoup de, il y a des classiques dans ce dialogue intérieur. Hein. Le j'ai le droit en fait partie. Hein. Il y a encore
d'autres. La déculpabilisation, l'esprit, ça, déculpabilisation, après je n'aurai plus, bon, ce sera fini.
Oui, ok.
C'est pas si grave.
C'est pas si grave.
Parce que la notion de temps aussi, on pense que ça va durer. Qu'on va pouvoir gérer, ça va être court, mais en fait,
voilà. Oui. Et ça, ça dépend aussi justement de la durée et du craquage, parce que là, il y a encore d'autres mécanismes qui se mettent en place. Qui a le sentiment qu'il y a une restriction, un effet tunnel, comme si dans l'esprit, il n'y a plus qu'une chose qui est présente et qu'on perd la vision de tout ce qui existe autour. Qui a cette impression-là? Ouais. Là, c'est assez fort parce qu'en fait, c'est une restriction avec une alternative. Ou bien tu craques, ou bien tu te prives du craquage. Et dans les deux cas, en fait, ça va être un peu déplaisant. Mais si tu te prives, c'est très déplaisant parce que cette tension va pas s'arrêter. Tu auras toujours le vas-y, fais-le qui sera là. Et puis si tu craques, t'as conscience que tu vas le regretter, que c'est pas vraiment ce que tu veux faire, que tu le fais pas en complète liberté, en complète conscience, dans une... la notion de plaisir est pas 100% là. Donc c'est deux alternatives qui sont aucune des deux pleinement satisfaisantes sur le moment, mais c'est comme si le reste du monde, le reste des choses qu'on pouvait faire avec soi avait disparu. Il y a ou bien tu résistes et tu souffres, ou bien tu craques et tu souffres, et il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas sortir de cette situation et aller te promener. C'est ou bien.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'éteins l'esprit à ce moment-là.
Oui.
Je réfléchis plus, je ne veux pas réfléchir. D'une certaine manière, je sais que ce n'est pas vraiment bien, ou ce n'est pas ce que je veux, donc paf, j'éteins tout, et puis voilà.
Tu tires la prise.
Ouais,
qui a cette impression que la cognition est un peu déconnectée, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et ça correspond à une réalité, hein. Alors juste, si on rentre dans le détail des stratégies, argumentatives, quand on est encore en train de réfléchir, il y a des classiques, hein. Il y en a déjà qui ont été évoqués, mais il y a, je viens de vérifier le nom avec ChatGPT, qui a la voix de Roger Federer dans la version que j'ai choisie. C'est assez étonnant. Donc je lui ai demandé comment s'appelait cette situation où quelqu'un qui a pris une décision de ne plus du tout toucher à l'alcool en boit un dé à coudre et se dit ensuite foutu pour foutu autant que je me bourre la gueule. Et il m'a répondu avec la voix de Roger Federer, je pense que tu veux parler de l'effet de violation de effet de violation de l'abstinence. L'effet de violation de l'abstinence a été décrit. Donc il a cette voix là, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Toujours est-il que grâce à ChatGPT, je sais que ça s'appelle effet de violation de l'abstinence et c'est ce truc où vous vous étiez dit en tout cas le sucre pour moi cette semaine c'est fini. Et vous mangez un quart de cookie et vous dites bon voilà. Voilà. Autant que je mange la boîte. Mon âme est perdue. Donc ça, c'est l'effet de violation de l'abstinence. C'est complètement idiot et ça se produit. Il y a la récompense, je le mérite. C'est vrai que je m'étais dit que, mais en même temps, aujourd'hui, vraiment, je le mérite. Il y a la rationalisation, hein, j'ai marché 10 km, j'ai fait mes 10 000 pas, donc j'ai droit à mon tiramisu. Et c'est peut-être vrai, hein, tout ça, c'est juste, voilà, mais ça se passe dans notre esprit. Il y a tous ces éléments de négociation, compensation, expiation future. C'est la dernière fois. Mais là, aujourd'hui, c'est spécial. Je compenserai demain, tout à l'heure. Et puis, en effet, je vais le faire, mais juste un peu.
C'est souvent pas possible,
absolument. Et après, il y a eu justement ce côté où on débranche l'esprit. C'est assez intéressant parce que dans les salons de jeu, il y a beaucoup de bruit. Dans les salons de jeu traditionnels, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique, il y a le bruit des machines elles-mêmes qui sont bruyantes, et ça fait comme une espèce de bruit de fond qui occupe notre esprit, qui empêche que le silence se fasse et que la réflexion se fasse dans le silence. Et moi j'ai souvent l'impression dans ces moments-là, ou bien que je me bourre la tête de pensées qui vont m'empêcher de réfléchir, une espèce de dialogue intérieur frénétique, ou alors qu'il n'y a rien, et en effet que je tire la prise. Que je suis comme une espèce de zombie dans lequel il n'y a pas de pensée, qui est en train de faire un truc, et qui perd la capacité de prendre du recul. Et c'est très intéressant, parce qu'évidemment, plus on s'intéresse à ça, plus on applique notre curiosité à dire « Ok, je suis sujet, comme tous les êtres humains le sont, à ces états-là où je suis des envies que je regrette après. Alors ok, je vais continuer d'y être sujet, mais je veux être un sujet aussi lucide et présent que possible, aussi longtemps et aussi souvent que possible. » Donc c'est une bonne intention à avoir, de se dire « Bon, voilà, ce genre de choses peuvent m'arriver, mais j'aimerais être aussi présent que possible quand ça m'arrive, quitte à être en train de prendre des notes au fur et à mesure que l'expérience se déroule, parce que plus on met de la conscience, plus on a de ces espaces dans lesquels on peut prendre des décisions différentes. Donc, plus on s'y intéresse, et ça implique un peu de mettre de côté la honte qui nous donnerait envie de ne pas y penser une fois que ça s'est passé. Mais c'est le contraire, il faut vraiment se plonger dedans et explorer ce que c'est que cette expérience. Et on va revenir à ce qu'on peut faire aussi pour multiplier les alternatives, les autres options. Maintenant, un petit peu d'histoire. Comment est-ce qu'on en arrive à vivre ces envies, un problème ? À un moment de notre enfance, on découvre la gratification immédiate. Et c'est un plaisir d'une grande innocence et extrêmement agréable. Je me rappelle toujours du jour où ma fille a goûté pour la première fois un bonbon, puisqu'elle avait des parents bobos opposés aux bonbons. Elle n'avait jamais goûté de bonbons de sa vie. Et elle avait peut-être entre 2 et 3 ans, je pense. On était à un mariage et une dame est passée avec un plateau et lui a proposé des fraises Tagada. Et je l'ai vue arriver vers moi avec cet air, ses yeux immenses, ses pupilles dilatées. Et « Papa !» Elle m'a donné la dame, ça s'appelle bonbon. Et je voyais vraiment l'extase. Et ça, c'est une magnifique expérience. Et tant qu'on a des expériences comme ça, extatiques, c'est très beau. Le problème intervient plus tard quand on découvre que ces expériences-là peuvent aussi nous faire oublier une expérience désagréable. Un chagrin, d'ailleurs, on l'apprend aux enfants, si ils ne l'apprennent pas tout seuls, on le leur apprend très vite. Hein. Un enfant qui pleure, on dit « Tiens, prends ça. » Et du coup, on comprend « Ah, je peux utiliser ce plaisir-là pour oublier un chagrin, une anxiété. » Et à partir de là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a un mésusage de ce plaisir qu'on peut introduire dans notre vie. Et à partir du moment où on utilise cette gratification comme une façon d'échapper, comme un opium hein, qui nous permet d'échapper à une souffrance, on ouvre la possibilité à un usage insatisfaisant de ces sources de plaisir. Avec ce qui est commun à toutes les envies problématiques, le phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut des doses de plus en plus importantes ou de plus en plus d'intensité pour obtenir le même plaisir, ce qu'on a observé même avec des likes sur Facebook. C'est assez génial. Enfin, sinon, c'est affreux, mais quand on ouvre son compte sur Facebook, on commence à avoir des likes quand on écrit des choses. Et au début, voilà, 5 likes, ça nous rend très heureux. Il y a 5 personnes qui ont aimé ce que j'ai partagé, ma photo de petit chat, c'est merveilleux. Et après, vous vous habituez. Et il vous faut 15 likes pour avoir le même bonheur. Et après, il vous en faut 100. Et on a vraiment observé je crois que c'était par imagerie cérébrale, que suivant le nombre d'abonnés que les gens ont, en fait, au début, ils se contentent, il y a une réaction dans le cerveau de satisfaction qui s'amoindrit au fur et à mesure à nombre de likes équivalents, il y a besoin de toujours plus. Donc, ce phénomène de tolérance, il est vrai pour le sucre, pour l'alcool, pour la drogue et pour les réseaux sociaux. Il y a le phénomène de l'abus, donc le binge, hein, binge eating, quand on mange une très grande quantité en très peu de temps, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour les drogues, pour les réseaux sociaux, il y a la même chose, hein, où on se plonge vraiment pendant 1 heure, on fait que ça, on est collé à notre écran et on fait défiler. Il y a les difficultés liées au sevrage. Les personnes qui font des retraites méditatives silencieuses qui découvrent parfois que pendant les premières 24 heures, la déconnexion d'avec le monde est extrêmement douloureuse. Et évidemment, si on a beaucoup recours à ces envies-là, on a petit à petit un appauvrissement, une perte de flexibilité dans notre façon de pouvoir répondre à quelque chose qui nous stresse, par exemple. On oublie quelle autre stratégie, on privilégie celle-là, et donc on est moins capable de développer d'autres stratégies. Et dans certains cas, le temps et l'énergie qu'on consacre à cette gratification immédiate va mordre sur d'autres activités de la vie courante. Et si on pense aux écrans, c'est une évidence pour beaucoup que ça nous prend du temps qu'on pourrait consacrer à autre chose. Ça nous rend moins disponibles pour les choses vraiment importantes. Et ça devient un problème de santé publique majeur, d'autant que toutes ces addictions se renforcent les unes les autres, et qu'avec les écrans, on a en même temps, depuis les smartphones, une nouvelle source d'addiction, parce qu'en eux-mêmes, ils sont une addiction, mais aussi quelque chose qui potentialise les autres addictions. Évidemment que les achats compulsifs, avant, il fallait enfiler des vêtements, sortir de chez soi, attendre l'ouverture du bon génie, aller flamber sa carte de crédit. Là, on peut être en pyjama dans son lit et braquer bon génie avec la même efficacité. Et c'est vrai pour tout le reste. Même pour les drogues illégales, on peut se les faire livrer en allant sur le Darknet. Ne me demandez pas comment ça marche, je sais pas, mais voilà. Donc ça a facilité l'accès aux autres dépendances et c'est une nouvelle dépendance en elle-même. C'est toujours le même circuit dopaminergique. Et évidemment, tout n'est pas problématique, mais c'est un état qui gagne à être reconnu dans la vie quotidienne. Juste la petite envie de café, le moment où vous sortez votre téléphone parce qu'il y a un vague moment d'ennui, où il y a un vague moment de fatigue, où il y a un vague... Ça veut pas dire, on veut pas pathologiser toutes les petites envies du quotidien. C'est pas grave de regarder son téléphone, de manger un chocolat quand on a envie d'un peu de réconfort. Mais simplement de le faire en liberté et en conscience de ce qu'on fait, et du coup d'en profiter, de minimiser la part désagréable et de maximiser la part agréable, et d'avoir conscience aussi, ce qui relève du même état, c'est la procrastination. Quand vous devez envoyer un mail ou faire vos impôts, et que vous ouvrez un onglet, et que vous tapez quelque chose, vous faites une recherche, et que vous... De sentir ce qui se passe dans ces moments-là, juste avoir cette curiosité. On sait que, quand je dis que c'est un problème de santé publique, c'est extraordinaire cette courbe. Je crois que c'est la courbe des... je ne veux pas dire de bêtises. C'est les indicateurs de détresse émotionnelle, que ce soit la prise d'antidépresseurs, les consultations, les tentatives de suicide, la fréquence des pensées suicidaires. Chez les jeunes femmes... En particulier, plus que chez les jeunes hommes, mais aussi chez les jeunes hommes, on a une courbe qui évoluait, avec des hauts et des bas jusqu'en 2011. Et à partir de 2011, il y a une augmentation de ces indices de mal-être émotionnel. Et en 2014, ça s'accélère encore. Et alors que les jeunes hommes et les jeunes femmes étaient plus ou moins dans la même gradation, tout à coup, chez les jeunes femmes, ça explose. Ça explose à partir de 2011. 2011, c'est en gros l'iPhone, l'apparition, vraiment le développement des smartphones. Et 2014, je crois que c'est Instagram et l'explosion d'Instagram et les filtres sur Instagram. Donc, il y a quelque chose qui a augmenté le mal-être chez les jeunes hommes aussi, mais particulièrement chez les jeunes femmes, à partir du moment où ces réseaux sociaux sont devenus constamment accessibles dans la poche. Et c'est vraiment, c'est du jamais vu, l'augmentation est énorme, c'est vraiment absolument spectaculaire. Donc, la dépendance à ces appareils-là, peut-être parce que ça renvoie à des vulnérabilités quant à l'image, c'est vraiment lié aussi au développement d'Instagram. Donc, pour moi, Instagram, c'est l'image. Donc, c'est peut-être ça. Mais il y a vraiment eu quelque chose qui s'est détérioré. Pourquoi est-ce que ces mécanismes sont puissants et pourquoi est-ce que c'est difficile de s'en libérer, de retrouver de la liberté par rapport à eux? On sait, si on prend vraiment le cas de la gratification utilisée pour oublier le stress, que le stress inhibe le fonctionnement de notre cortex préfrontal, qui est cette partie, c'est l'intello de notre cerveau. Le cortex préfrontal qui va trouver des solutions innovantes à des problèmes, va dire voilà, il faudrait faire ça, on pourrait faire ça, ce serait pas mal, tu te sentirais mieux si t'allais prendre le téléphone et si t'appelais telle ou telle personne qui va t'aider ou si tu en cas de problème, c'est lui dont on aurait besoin pour des solutions innovantes qui tiennent compte de la complexité de ce qu'on est en train de vivre. Et lui, son fonctionnement est inhibé par le stress qui va plutôt renforcer les circuits de réaction immédiate, hein, c'est le côté survie, etc. Et qui va aussi inhiber la recherche de gratification immédiate, qui va activer le circuit de la récompense, pas inhiber. Donc en fait, on est plus vulnérable à la gratification immédiate quand on est en état de stress. Et on a moins accès aux solutions créatives et qui nous sortiraient d'affaires. Et du coup, on en revient à ce qu'on connaît et ce qui a eu marché par le passé quand on était enfant et malheureux et que le chocolat nous rendait heureux. Et faute de créativité, on se réfugie dans ce vieux circuit-là. Et l'envie à problème en situation de stress, c'est vraiment, on peut le concevoir comme un ami d'enfance, bien intentionné, mais complètement débile. Et qui du coup nous donne toujours la même chose, je veux dire, quoi qu'il nous arrive, on lui dit « tiens, prends des chips ». Et c'était sympa quand vous aviez 7 ans et que ce pote vous disait « tiens, prends des chips » quand vous étiez malheureux, mais là, ça, c'est plus la bonne solution. Mais lui, il a jamais eu d'autres idées. Et vous, vous êtes vulnérable, votre cortex préfrontal, il marche pas à cause du stress, donc vous écoutez toujours cette suggestion-là. Et c'est bien ce qu'on sent quand vous décrivez cet état-là, quand vous êtes dans une envie problématique, l'impression de débrancher le cerveau. C'est effectivement ça. Hein, le cortex préfrontal n'est pas là, puis on est dans cette espèce de transe, de stupeur, où notre capacité à la réflexion n'est plus présente. Et c'est pour ça que quand on en émerge, on se dit « mais ça fait 30 ans que je sais que ça ne marche pas, ce truc, de me jeter sur le chocolat quand je suis stressé. Je le sais, pourquoi je l'ai encore fait ?» Ben voilà, parce que cette partie qui résonne de façon créative et intelligente était plus présente. Donc, c'est exactement ce qu'on sent. Mais de nouveau, c'est super intéressant d'être là pour le sentir. Tant pis si vous n'êtes pas en possibilité de changer les choses ou d'agir différemment, mais au moins se dire « ah, voilà ce qui m'arrive ». C'est cette espèce... quand je sens ça, ça veut dire que mon cortex préfrontal est débranché ou qu'il était débranché. Et plus on a cette curiosité, plus on gagnera en marge de manœuvre. Alors, ça, c'est une des choses qu'on peut faire, c'est connaître cet état quand il se produit, avoir de la curiosité pour lui, et le connaître dans le détail. Et ce qui est évidemment miraculeux, c'est que plus on a de la curiosité pour lui, plus ça nous offre des portes de sortie de cet état de transe. Et c'est très compliqué d'avoir un moment de lucidité dans un état d'envie de quelque chose. Mais par contre, comme on l'a vu, c'est un état extrêmement fragile. Vous êtes à 3 respirations d'être libéré de cette envie. C'est pas comme l'anxiété où il vous faudra peut-être 2 minutes de respiration pour que ça se calme physiquement et que vous puissiez réfléchir un peu. Là, c'est hyper rapide. Le problème, c'est qu'on n'y pense pas sur le moment. C'est pas que ce soit difficile d'en sortir. Et parfois, ça va revenir. Voilà, on en sort et puis ça revient 3 minutes plus tard, mais c'est pas très compliqué d'en sortir quand on en a émergé. Évidemment, comprendre aussi ce qui va provoquer cet état-là. Et je pense que il y a des émotions qui sont associées, comme la fatigue, la frustration, l'anxiété, qui sont des grands classiques. Reconnaître aussi ces émotions-là et le rôle qu'elles jouent. Cultiver des alternatives Et si on ferme les yeux et qu'on se pose la question ensemble, dans cette situation-là, si vous vous rappelez de l'envie à problème que vous avez choisi, qu'est-ce que vous auriez pu faire qui vous aurait aussi fait du bien, mais qui n'aurait pas été ça? Est-ce qu'il y avait d'autres options? Parce que parfois il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Et si oui, lesquelles? Et moi, je réalise que c'était surtout que j'avais trop faim. Donc, l'alternative aurait été de faire sauter ces bébés brocolis que j'avais dans le frigo avec un peu d'huile d'olive et d'ail et de manger ça plutôt que le nougat iranien. Très bon au demeurant. D'autres idées qui vous sont venues? Est-ce que vous auriez pu faire d'autres, peut-être, pour vous faire du bien? Est-ce qu'il y a eu des idées?
Moi, je me disais par rapport au chocolat. En place de manger le chocolat jusqu'à satiété, puis il faut le finir, parce qu'après, au moins, il n'y en aura plus. puis après, jusqu'à... Voilà, bref. Mais prendre une petite cuillère de miel, parce que ça apporte quand même un peu de douceur, avec... Sans les, et puis ça reste plus longtemps, c'est, voilà. Au lieu de tout ce chocolat, je ne sais pas... Un fruit, ouais, mais bon, un fruit, c'est pas la même chose. Donc, je disais, un tout petit peu de miel, c'est bon pour la santé si c'est du bon miel. Bon, pas le pot, hein, mais...
Ou la ritualisation du carré de chocolat, parce qu'on l'a fait parfois cet exercice de fermer les yeux et de manger le tout petit carré de chocolat en pleine conscience, et c'est...
On l'a fait de coup, mais non, ça, c'est ce qui me concerne.
hors contexte méditatif, c'est pas une option, mais le miel... D'autres choses qui vous sont venues à l'esprit? Peut-être des fouets?
Moi, prendre un bain.
Prendre un bain.
Je pense que je devrais faire ça plus souvent. Mm-hmm. Et ouais, je pense que ça pourrait marcher.
Ça, c'est quelque chose souvent, notamment par rapport à la nourriture, de ne pas s'autoriser une expérience plus longue de prise de soin de soi nous force à faire quelque chose de plus concentré parce qu'on ne s'accorde pas le temps nécessaire et du coup, ça tombe sur... la nourriture, alors que le bain chaud nous aurait fait un bien plus profond, par exemple. Ouais. D'autres choses? Oui.
Essayer d'anticiper un peu et peut-être m'autoriser déjà un plaisir dans la journée. Je sais que à la fin du repas, le soir, je me suis fait une crème au chocolat que j'ai fait moi-même. Et je sais que ce sera mon moment de plaisir et j'ai planifié et j'ai le droit.
Oui, oui. Là, ça renvoie aussi à une approche bienveillante envers soi-même où on évite d'exiger des choses impossibles de soi-même et on s'aménage un plaisir dont on va pleinement profiter. Ouais, ouais. D'autres choses?
Souvent, on n'est pas tout seul, on nous propose.
Oui.
On n'a pas anticipé ça.
Oui, oui.
C'est dur.
Oui, c'est dur.
Se souvenir du plaisir qu'on a de ne pas avoir craqué.
Oui.
De ce que ça apporte en termes de gratification.
Oui. Et du coup, faire du fait de ne pas avoir craqué une gratification formellement, c'est-à-dire pas considérer que ce soit la norme, et c'est bien la moindre des choses que je n'ai pas craqué, mais se dire non, c'est une satisfaction qu'on peut s'accorder aussi. Ouais.
Je suis un héros.
Exactement. Exactement.
Donc, j'ai mérité un peu de chocolat.
Moi, je dirais que ce qui me concerne, la seule solution, c'est de ne pas en avoir.
Oui, là, c'est dans l'ordre de la prévention. Ouais. 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 Oui, et c'est aussi, ça, c'est quelque chose dans le. Ça n'avait pas plu. Quand j'avais dit ça dans une formation justement à l'alimentation en pleine conscience, mais je pense que juste c'est réaliste parce que c'est vraiment dans le manger en pleine conscience, on vise finalement la relation épanouie à ce qu'on mange en s'autorisant à manger absolument tout ce qu'on veut, mais en trouvant le chemin d'une relation harmonieuse et satisfaisante à ce qu'on mange. Et oui, et c'est une belle voie à suivre, mais il faut aussi admettre que pour certaines personnes, le sucre est une substance chimique concentrée qui a un effet sur notre système nerveux avéré, tout comme l'alcool a un effet sur notre système nerveux avéré. Et donc, certaines personnes qui ont eu des problèmes d'alcool prennent la décision de ne plus avoir d'alcool à la maison et de ne plus toucher à l'alcool. Et on ne les juge pas extrémistes, on comprend qu'elles se sentent vulnérables et que parce qu'elles se sentent vulnérables, elles ont besoin de prendre ce genre de mesures-là. Et je trouve qu'on devrait avoir la même compréhension et la même ouverture d'esprit par rapport au sucre, que certaines personnes se disent, ben voilà, j'ai cette vulnérabilité qui me fait souffrir, donc je choisis de ne pas avoir dans mon armoire des choses sucrées que je pourrais manger ou d'en avoir juste un nombre bien précis. Et de prendre cette décision, ça devrait pas être stigmatisé non plus, en fait. C'est pas parce que le sucre est un peu comme la cigarette l'était il y a une centaine d'années, quelque chose qui est complètement intégré dans notre culture et qui n'est pas jugé comme étant en soi problématique, que pour certaines personnes, ça ne peut pas l'être profondément. Ouais. Donc aussi reconnaître ça, parce que je trouve que c'est dommage de se fermer à cette possibilité-là, parce que pour certaines personnes, le bonheur est là. C'est dans le fait de reconnaître qu'elles ont perdu une relation harmonieuse avec cette substance-là, comme d'autres ont perdu une relation harmonieuse avec l'alcool, et puis que pour un temps en tout cas, c'est mieux de prendre cette décision.
Mais la frustration vient du fait qu'on ne mange plus du tout de sucre. Ça, c'est frustrant. Mais de manger un carré de chocolat par jour.
Oui, ça peut.
Ouais. C'est quelque chose qui peut apporter, parce que c'est les abus qui sont. Après, si on boit un verre de vin chaque jour, voilà,
Mais c'est la même chose. Mais pour certaines personnes, mon épouse, par exemple, c'est une bière dont elle profite à fond, et elle est parfaitement satisfaite comme ça, et elle n'a pas besoin de plus. Et il y a des gens pour qui une bière, ça conduirait à deux bières ou ça conduirait à trois bières, et du coup, ces gens-là prennent une décision différente. Et je pense que c'est la même chose avec le sucre. En effet, on peut trouver... Il y a différentes voies vers une relation épanouissante. Ou bien on choisit de manger une petite quantité, ou bien on s'en passe complètement parce que pour nous, c'est pas possible de faire autrement. Et je pense juste qu'il faut avoir une ouverture à toutes ces options-là. Et on peut tricher aussi et se faire comme moi des sabayons au citron à l'allulose. Vous connaissez pas l'allulose ? C'est un sucre d'origine naturelle qui n'est pas sucré. Je teste récemment l'allulose. Vous savez faire un sabayon ?
Non.
C'est une merveilleuse émulsion basée sur des œufs. Une belle tradition italienne. D'habitude, on prend un petit verre d'un vin doux. Ça peut être du Marsala, ça peut être différent. Voilà. On verse dans un bol en inox. On y ajoute une cuillère à soupe ou deux. Peut-être une, ça suffit, de sucre ou d'allulose. On met deux œufs entiers, deux jaunes d'œufs, ça peut être que des jaunes d'œufs, ça dépend des recettes. On met ça au bain-marie. On fouette vigoureusement le mélange pour que ça forme une mousse. Et on s'arrête à l'instant précis où le fouet laisse des marques qui restent plus qu'une fraction de seconde dans la masse. Et là, on a quelque chose de mousseux, tiède, parfumé, qu'on peut verser sur des fruits, par exemple, ou consommé tel quel, excellent avec le café. Et la version citron, où on remplace le vin doux par le jus de citron, c'est un peu comme le même plaisir qu'on a dans une tartelette au citron, mais en moins sucré et en plus aérien, comme ça. C'est bientôt midi. Hein. Donc, il y a aussi cultiver les autres sources de plaisir sans risque d'addiction. On a parlé des bains, le sport, la relation avec la nature, l'amour, la méditation. Cultiver évidemment le manger en pleine conscience ou le boire une bière en pleine conscience, le boire un café en pleine conscience, Je suis plus sceptique sur le réseau social en pleine conscience, mais pourquoi pas ? De se dire, j'en fais une expérience, je vais sur Instagram, mais je vais être présent à chaque instant quand je suis sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que si je le fais pour manger, par exemple, je suis incapable de manger trop, et j'en profite à fond. Donc c'est vraiment hyper agréable. Je peux manger un truc sucré, je profite de chaque morse, et en même temps, j'ai pas du tout envie d'en prendre plus. Je me satisfais de beaucoup moins. Peut-être que ça marche avec les réseaux sociaux, ou peut-être qu'on arrête tout de suite de les utiliser, parce que le fait d'être en pleine conscience nous fait immédiatement réaliser qu'il n'y a pas de vrai plaisir à être sur Instagram plus que 30 secondes. C'est une expérience à tenter. Donc, de faire ce qui nous paraît problématique en pleine conscience. Avec la nourriture, c'est miraculeux. Avec la bière, on profite. Je bois plus, hein, mais je bois des fois une bière sans alcool. On profite de chaque gorgée, ça démultiplie le plaisir qu'on a à boire la bière, ça gâche rien. Et si on a tendance à en boire trop, ça nous empêchera sans doute aussi d'en boire trop. Et cultiver cette capacité à l'émerveillement pour les plaisirs les plus simples, ça c'est ce que j'ai toujours trouvé miraculeux dans la pleine conscience, c'est le glutamate de la vie. C'est l'exhausteur de saveurs des toutes petites choses de la vie quotidienne. Donc le plaisir de prendre une douche, le plaisir d'être dans son jardin, le plaisir de regarder les gens qu'on aime, de se rappeler qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être vécues avec plus d'intensité. Et que du coup, on a moins besoin de ces injections d'expériences intenses quand on profite de tous les petits plaisirs. Comme le disait Dipama, quand elle parlait de ce qu'est sa vie, Dipama étant une méditante très avancée, tout est toujours frais et nouveau. Rien n'est jamais ennuyeux, tout est frais. Et si on est en pleine conscience, tout redevient frais. Alors, plaisir, imaginons, vous avez un début de journée catastrophique et vous avez l'après-midi pour vous et vous vous dites, pour me vivre une journée qui va mieux se terminer qu'elle n'a commencé, cet après-midi, pour me faire du bien, pour m'accorder du plaisir, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que vous choisissez de faire ? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Et peut-être que ça nous permettra de remplir chacun notre boîte à idées. Moi, j'ai simplement pensé à une longue promenade au bord d'une rivière. J'ai plusieurs options en tête. D'autres idées, lâchez-les dans la salle.
Marcher dans la forêt.
Marcher dans la forêt.
Un massage chaud.
Un massage.
Un bon bain chaud.
Un bon bain chaud.
En lisant un livre.
Lecture, oui, ouais.
Une sieste.
D'autres choses.
Aquarelle.
Nager. D'autres choses.
Jardiner,
ouais. Encore un.
Visiter quelqu'un,
ouais. C'est pas mal.
Écoutez
ronronner
le chat.
Écoutez ronronner le chat, oui. C'est bien ça. Ouais. Ok. Alors, pas oublier ces options-là. Et si vous avez la chance d'être pris dans une envie à problème, mais que vous avez un instant de lucidité, je rappelle qu'il y a un enregistrement sur le site et sur ce qu'il reste des applications, il faut absolument que je les mette à jour. Qui s'appelle Surfer sur les envies et qui permet de vivre en pleine conscience une envie. Généralement, en fait, à partir du moment où vous êtes en état d'appuyer sur play et d'écouter cet enregistrement, à la limite, même si vous l'écoutiez pas, vous seriez déjà sauvé. Mais enfin, ça donne des moyens supplémentaires de sortir de cet état de transe et de se demander qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour se faire du bien. Voilà, c'était cette réunion des envieux anonymes. Ce fut un plaisir pour les personnes qui mangent avec nous. Bon appétit, et pour les autres, bon appétit aussi. Et il y aura encore une dernière de ces rencontres dont le sujet est des plus flous. Donc venez pour savoir en même temps que moi de quoi il va s'agir. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bonne journée.